Radio Kapi.
Le journal, présenté par Gisèle Cage. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Kapi. C'est l'heure de faire le tour de l'actualité, de vous livrer les faits marquants, les événements qui font bouger le pays. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Processus de paix fragilisé dans l'est de la RDC. Malgré la signature d'un accord de principe à Doha, les hostilités persistent entre l'armée congolaise et la rébellion, plongeant le nord et le sud Kivu dans une nouvelle phase d'incertitude sécuritaire. Tension dans la Tchopo, Metelsat interpelle la RVA. Emmanuel Bobongo dénonce le non-respect d'un protocole d'accord sur la redevance météorologique compromettant le bon fonctionnement de son service. Invité du journal Guy Kibirando, les chefs des divisions de la jeunesse au Nord Kivu, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, il appelle à une implication active des jeunes dans le processus de paix en RDC. Pour ouvrir ce journal, cap sur l'est de la RDC où la situation sécuritaire reste préoccupante alors que les négociations de Doha patinent. La méfiance s'installe entre le FARDC et le rebelle de l'AFC M23. Malgré la signature d'une déclaration de principe le 19 juillet sous médiation qatari, les deux camps s'accusent mutuellement de violer les cessez-le-feu. Cette impasse diplomatique fragilise les espoirs de paix dans la région. Les précisions avec Martial Papi.
La déclaration des principes signée entre les gouvernements et l'AFC M23 prévoyait l'ouverture officielle des négociations le 8 août en vue d'aboutir à un accord de paix global le 17 août. Mais cette étape n'a toujours pas débuté, laissant planer un blocage où tractations politiques et tensions armées semblent s'opposer. Sur les terrains, au nord comme au sud Kivu, les affrontements sporadiques et les mouvements des troupes de l'AFC M23 se poursuivent, alimentant un climat de méfiance. Chaque camp accuse l'autre de violer les engagements pris à Doha et de compromettre la mise en œuvre de cesser les faits. Dans un communiqué publié ce mardi, les FARDC accusent l'AFC M23 de multiplier les attaques contre leur position dans les deux provinces, qualifiant cette attitude de belliciste. L'armée affirme que ces offensives quasi quotidiennes s'accompagnent des massacres ciblés des civils, notamment au nord Kivu. Elle dit même se réserver les droits de répondre à ce qu'elle considère comme des provocations et violations répétées des accords. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Kapi.
Autre fait marquant de ce jour en Ituri, la violence ne faiblit pas. Dans la nuit de lundi à mardi, 6 personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée aux miliciens Zaïre dans le village Ngokoni, territoire de Djougou. Plusieurs habitations ont été incendiées, des biens pillés, provoquant un nouvel exode des habitants. Cette attaque survient au lendemain d'une incursion des miliciens de la Codeco dans le village voisin des Liri, accentuant l'insécurité dans la région. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Il était environ 17 heures lorsque 40 hommes armés identifiés comme appartenant à la milice Zaïre ont envahi le village de Ngokoni dans le groupement Dzina, secteur de Walendupiti dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont commencé par incendier plusieurs habitations avant d'abattre 6 personnes dont 5 femmes. Des sources coutumières ajoutent que dans leur fuite, ces miliciens ont emporté des motos, des panneaux solaires et des produits champêtres. Face à cette violence, les habitants de Ngokoni, Kodi, Xandoukoudé, Tsuba et Liri ont fui vers des zones jugées plus sûres. La tension communautaire reste vive dans ces localités. La veille, dans le même secteur de Walendupiti, des miliciens de la Codeco avaient attaqué les villages de Liri emportant plusieurs vaches et chèvres. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri. La deuxième phase des sensibilisations de groupes armés au protocole de paix d'Aru 2 a démarré mardi à Bounia. Pendant un mois, des équipes mixtes issues de deux factions parcourant leur bastion pour convaincre les combattants de déposer les armes. Les efforts se concentrent sur les localités situées le long de la route nationale numéro 27, un axe stratégique pour la libre circulation des personnes et des biens. Le reportage d'Isaac Remoyope.
Cette deuxième phase suit la feuille de route élaborée par les parties prenantes au processus. Les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Arou, Codeco, Chiniatuna, MAPI, FPIC, FRPI et Autodéfense, ainsi que le gouvernement provincial, l'armée et la MONUSCO. Particularité, les groupes armés sont mixés pour mener ensemble cette campagne dans leur zone d'influence, principalement dans les territoires d'Irumu et de Djougou, où les violences sont encore fréquentes. Les messages clés sont clairs, ne plus commettre des violences contre les civils, cesser de circuler avec les armes, et adhérer au programme de désarmement et démobilisation. Les positions des miliciens le long de la RN27 de Bounia à Maagui sont particulièrement visées. Sur ces tronçons de 185 km, plusieurs attaques et embuscades contre des véhicules ont été enregistrées, perturbant l'approvisionnement de Bounia en carburant et d'autres produits de première nécessité. Cette deuxième phase a été lancée après une réunion d'évaluation de la première menée du 3 au 27 juillet dernier. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans le reste de l'actualité au Kwilu, évasion massive à la prison centrale d'Idiofa. Au moins 47 détenus se sont évadés de la prison centrale dans la nuit de samedi à dimanche. L'information a été confirmée par le directeur de l'établissement, Munga Bibwa Hardi, qui évoque une évasion survenue vers 1h du matin. Selon lui, la vétusté de cette prison, construite en 1937 en briques adobe, ainsi que les conditions de détention déplorables ont facilité cette fuite. Je vous propose d'écouter le directeur de la prison centrale d'Idiofa, Munga Bibwa Hardi, au micro de Radio Kapi.
Cette prison a daté depuis longtemps, depuis des décennies, depuis 1937 que cette prison a été construite. Alors jusqu'aujourd'hui, cette prison n'a jamais connu de réhabilitation. Et chose grave, cette prison aussi est construite par des briques adobe. Donc ce n'est pas des briques en dur, mais c'est des briques adobe ou que ce sont seulement des sables. Alors c'est facile que les détenus puissent s'évader, puissent casser les murs, parce qu'il n'y a pas vraiment de briques en dur. Ça ne répond pas aux normes standards internationales. Alors c'est pourquoi que nous, les détenus ont réussi quand même que nous, à trouver les murs. Ils ont réussi à casser les murs, à enlever des briques et se sont évadés.
Les directeurs appellent les autorités à intervenir en urgence pour reconstruire cette infrastructure, l'une des plus anciennes de la province, qui abrite actuellement plus de 100 détenus. Et puis, dans ce journal également, dans la province de la Tchopo, la division provinciale de l'Agence nationale des météorologies et de télédétection par satellite Metelsat monte au créneau. Elle accuse la régie de voies aériennes RVA de ne pas reverser les frais liés à la redevance météorologique, notamment ceux perçus sur la redevance routière et l'atterrissage des aéronefs. Lors d'un point de presse tenu mardi à Kisangani, Emmanuel Bobon Bolimo, chef de division provinciale de Metelsat, a rappelé l'existence d'un protocole d'accord signé entre les deux services, tous deux placés sous tutelle du même ministère. Il déplore que cet accord soit ignoré, compromettant ainsi le bon fonctionnement de son service. Emmanuel Bobongo est au micro de Jacques Moukonkole.
Ces redevances que je viens de souligner, redevances de route et atterrissage, ça se retrouve là-bas et également à la Metelsat. Alors, suite à ces redevances qui est commune, l'arrêté de l'article 9 est clair que le régie des voies aériennes est censé percevoir cette redevance et ensuite rétrocède à la Metelsat leur quote-part selon les clés de répartition par un protocole d'accord. Selon le protocole d'accord, est clairement 60% pour la Metelsat et 40% pour la RVA. Ce n'est pas respecté ici à Kisangani.
C'est là où le problème se pose. La Metelsat n'arrive pas à bénéficier de ses droits.
Je suis en train de vous confirmer, depuis 2017, une clé de répartition était faite, un protocole d'accord s'était fait. Depuis 2017, jusqu'à présent, moi je suis en train de vous dire, ici à Kisangani, je ne vois même pas cette rétrocession. Les problèmes de fonctionnement à la Metelsat, ça pose problème. Nous avons saisi le gouverneur de province, et le gouverneur de province, il nous a réunis en février 2025. J'étais la RVA Metelsat, et le gouverneur nous a promis de faire une décision administrative. Dans ces décisions, clairement, RVA Metelsat est censé de chacun respecter à faire leur travail.
Pour mémoire, des tensions avaient déjà éclaté il y a quelques mois entre les agents de la RVA et ceux de Metelsat à l'aéroport international de Bangoka autour de cette même problématique. À la suite de ces accrochages, la délégation syndicale de la RVA avait interpellé les autorités nationales, notamment le ministre des Transports et voies de communication pour intervention urgente. Un conflit qui continue de perturber le bon fonctionnement des services aéroportuaires à Kisangani. Direction Kalemie, où une vive polémique agite la population autour de la taxe sur la numérotation de parcelles. La division provinciale de l'habitat du Tanganyika poursuit la perception de cette taxe fixée à 10 dollars par plaque, tandis que le collectif des conseillers communaux appelle la population à suspendre tout paiement. Ces derniers dénoncent une procédure qu'ils jugent illégale et non encadrée, pointant du doigt l'absence de recensement préalable et des concertations avec le chef des quartiers. Le service de l'habitat est accusé d'agir hors de sa juridiction et de chercher à tirer profit de cette opération. Le point avec Ponle Munanga depuis Lubumbashi.
La division provinciale de l'habitat du Tanganyika met à la disposition des habitants de Kalemie des plaques de numérotation parcellaire. Le prix de la plaque est fixé à 10 dollars américains, indiquent plusieurs sources à Kalemie. En réaction, les collectifs des conseillers communaux de Kalemie dénoncent la perception de cette taxe qu'ils qualifient d'illégale et précisent que la taxe est de la compétence de la commune. Yassine Mouchoukioua Janvier, président du conseil communal du lac.
Les communes sont des entités territoriales décentralisées qui peuvent se développer grâce aux différentes taxes, mais curieusement étouffées aujourd'hui par la division provinciale de l'habitat qui se permet de percevoir les taxes de numérotation des maisons moyennant 10 dollars par maison. Nous demandons aux autorités d'interdire de percevoir cette taxe.
Aucune réaction côté division provinciale de l'habitat du Tanganyika. Selon l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et des entités territoriales décentralisées ainsi que les modalités de leur répartition, il est clairement fait mention que la taxe sur enregistrement et numérotation des parcelles est de la compétence des communes. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
L'actualité également à Goma, où un incendie tragique a endeuillé le quartier Kishiro. 5 personnes ont été calcinées, 2 autres grièvement blessées et d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Le drame s'est produit mardi dans 2 maisons voisines situées sur l'avenue Abattoir en commune de Goma. Selon plusieurs sources concordantes sur place, le courant électrique serait à l'origine de l'incendie. Plus de détails avec Alain Rong.
Cet incident malheureux s'est déroulé vers 3h du matin ce mardi, selon nos sources. Le courant électrique serait à la base de ce drame. D'après les témoignages recueillis sur place, un câble électrique est tombé sur l'une des maisons pendant que les victimes dormaient profondément. Bilan, dans la première maison sur laquelle le câble est tombé, l'on a enregistré 3 personnes décédées. 2 autres ont été grièvement blessées. Elles ont été sauvées de justesse puis conduites d'urgence dans une structure médicale de la place. Le feu s'est rapidement propagé vers la maison voisine, faisant également 2 morts. Toujours selon nos sources, tous les biens dans les 2 maisons ont été calcinés par le feu. Alerté par les voisins, le véhicule anti-incendie de la mairie de Goma est arrivé sur place pour éteindre le feu, mais en retard, ont indiqué nos sources. Les 2 maisons ont été réduites en cendres, selon les mêmes sources.
Autre sujet à suivre dans ce journal à Kinshasa, la liberté d'expression et la protection des données personnelles au cœur des débats. Journalistes, enseignants, étudiants et représentants d'organisations se sont réunis mardi autour d'un atelier consacré à un thème d'actualité, la liberté d'expression, la vie privée et les données personnelles à l'ère numérique. Pendant 2 jours, les participants vont analyser les failles du cadre juridique existant et proposer des pistes de solutions pour renforcer la protection de droits numérique. Cet atelier est organisé par l'UNESCO en partenariat avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Les détails avec Josué Kefebé.
La multiplication des plateformes numériques a révolutionné l'accès à l'information et la participation citoyenne. Cependant, elle favorise aussi la désinformation, les discours haineux et les violations des droits fondamentaux. C'est ainsi que le représentant de l'UNESCO, Isaiah Barreto, a insisté sur l'importance d'établir un équilibre entre la protection de la liberté et de garantir la sécurité ainsi que l'éthique dans l'espace numérique.
Il est crucial d'établir des mécanismes de régulation qui garantissent un équilibre entre la protection des libertés et la nécessité de préserver un espace numérique sécurisé et éthique. Je voudrais vous assurer que l'UNESCO ne ménagera aucun effort pour poursuivre sa collaboration avec le gouvernement de la RDC, avec le CESA.
Ces fléaux évoluent au point où il est difficile d'établir une limite entre la réduction et la propagation des libertés d'expression. Cependant, Christian Bossembe, président du CESA, a fait un appel à la responsabilité collective pour faire face à ces problèmes.
La régulation ne fonctionne que si chaque acteur, journaliste, plateforme, pouvoir public, société civile, ville et citoyens assument sa part des responsabilités et réfléchissent sur le mécanisme de mettre en place un cadre légal qui pourra permettre à ce que nous puissions trouver des solutions à ces problèmes-là.
Cet atelier qui va tirer ses rideaux ce mercredi 13 août a également connu l'intervention de quelques invités, dont le professeur de droit Kodjo Ndukuma.
Actualité internationale.
Alors que des milliers de Gazaouis risquent leur vie pour accéder à l'aide humanitaire, les hôpitaux encore fonctionnels dans l'enclave palestinienne sont submergés. L'Organisation mondiale de la santé OMS alerte le système de santé déjà ravagé et poussé au-delà de ses limites. Depuis le 27 mai, les violences autour des centres de distribution ont fait 1655 morts et près de 12 000 blessés. Les établissements médicaux débordés par l'afflux de blessés souffrent d'une pénurie critique de sang, de plasma et des médicaments. Le taux d'occupation dépasse le 200% dans plusieurs hôpitaux, dont Shifa et Ali.
L'invité
de ce journal, Guy Kibirando, le chef de la division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée hier mardi, il a lancé un appel fort, impliquer davantage le jeune dans toutes les étapes du processus de paix en RDC. Un plaidoyer qu'il détaille au micro de Jean-Marc Matwaki.
Guy Kibira, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs qui suivent la radio Capi en ce moment.
Alors, le thème international de cette année met un accent particulier sur la contribution des jeunes justement dans la promotion des objectifs pour le développement durable et au-delà. Mais au niveau national, il y a un accent particulier qui est mis sur le patriotisme. Quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse à cette occasion?
Bien évidemment, comme vous venez de le dire, le thème international pour cette journée de la jeunesse en 2025 met un accent sur l'autonomisation des jeunes à travers l'intelligence artificielle, mais également les compétences numériques. Mais au niveau national, c'est alors où nous avons contextualisé, où le thème national est l'éveil patriotique de la jeunesse dans le processus de paix pour un développement durable en République démocratique du Congo. Parce que vous savez que nous sommes un pays en situation de guerre, où une bonne partie de l'Est, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu, sont occupés en partie par des rebelles, mais également la province de l'Ituri n'est pas épargnée, parce que l'Ituri et le Nord Kivu sont dans une situation particulière de l'état de siège, pour des raisons évidentes. Donc pour nous, c'est tout à fait normal qu'on ait un thème lié à l'éveil patriotique, mais pas seulement dans le domaine de la paix. La paix, oui, parce que c'est une condition sine qua non pour toute situation, pour relever tout domaine de la vie nationale. Mais nous pensons que même là, les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués, puisque les processus de Doha, d'autres processus de l'Angola, de Nairobi, de Washington, les jeunes ne sont pas partie prenante.
Comment
C'est-à-dire que d'autres acteurs se retrouvent et décident de l'avenir des jeunes sans les impliquer, alors que la gouvernance actuelle voudrait...
Comment peut-on impliquer les jeunes? Parce que c'est des décisions qui sont prises entre les dirigeants, mais aussi ceux qui représentent les dirigeants. Est-ce que parmi ces représentants des dirigeants, il n'y a pas des jeunes?
Savez-vous que la crise actuellement au pays n'implique pas que les dirigeants? Si les politiques jouent un rôle, eh bien les jeunes sont quelque part dans une situation paradoxale, puisque certains sont impliqués dans des groupes armés, ils sont dans les forces armées étrangères comme nationales, mais encore d'autres qui sont découpés des routes, des kidnappeurs, sont aussi des jeunes. Et tous ceux-là qui sont dans les différents groupes armés, qui s'appellent soit Wazalendo et autres, Aujourd'hui, il faut reconnaître que ce sont des acteurs incontournables qui sont utilisés par des politiques quelque part et que donc leur présence dans ces processus serait importante. Et je suis sûr que s'ils participent, ils peuvent avoir un son de cloche qui peut amener les autres acteurs politiques qui les
instrumentalisent. À quel stade estimez-vous que ces jeunes doivent participer?
Les jeunes doivent participer en amont déjà. Voilà pourquoi je ne voudrais pas qu'il y ait des arrangements à l'absence de jeunes dans ces processus, parce qu'il y a certainement des intérêts à protéger. Il ne faut pas que les jeunes subissent les décisions d'un groupe d'acteurs au conflit, à la crise actuelle. Vous savez que les jeunes sont ceux-là qui vont hériter des crises actuelles ou des résolutions des crises actuelles. Il faut donc les familiariser à ces processus de paix pour que, s'ils participent en amont, au moins ils seront des témoins vivants. Toutes les fois qu'il y aura bévure ou déviation, ils peuvent dire, attendez, ce que vous voulez faire là est contre l'esprit des arrangements ou des accords signés à Washington, à Nairobi ou en Angola, ça et là, à l'Union africaine ou à la CIRGL. Voilà, donc...
Mais compte tenu des rapports des forces, mais aussi compte tenu du protocole, est-ce qu'on doit impliquer tous les jeunes ou il faut recourir à une représentation de cette jeunesse?
Même quand on traite avec les gouvernants, on ne traite pas avec tout le monde. Ce ne sont pas les jeunes qu'on va prendre comme ça et les embarquer, non. C'est-à-dire que pour chaque composante, il y a toujours des représentations. Pour notre pays, par exemple, la jeunesse est organisée au sein du Conseil national de la jeunesse, qui est une structure qui fédère toutes les structures des jeunes au niveau du pays et qui est représentée aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial où il y a les conseils provinciaux, jusqu'au niveau local où il y a les conseils locaux des jeunes et au plus bas niveau, au niveau des villes, des territoires, des chefferies, des villages, des avenues, des quartiers, des communes. Voilà, si on doit impliquer les jeunes, on n'a qu'à prendre une représentation au sein de ces structures. Il serait important que les leaders des jeunes, en tout cas les plus représentatifs, soient impliqués en amont et pendant la mise en œuvre des accords devant aboutir à la restauration de la paix, de l'autorité de l'État et de la libre circulation des personnes et de leurs biens.
Guy Kivira Ndole, merci pour cet éclairage et on vous souhaite une très bonne journée internationale de la jeunesse. À très bientôt alors.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité Guy Kivira Ndole, chef de la division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu, qui appelle à une implication concrète des jeunes dans le processus de paix en RDC. Un message fort à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage, la mise en onde de Billy Landry Betou, coordination Richard Junior Kamunga, supervision Pauline Mouzalia. Retrouvez-nous sur radiocapi.net et nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité en continu. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. D'ici là, restez à l'écoute.